Écoutez, c'est un privilège. Je ne vais pas prendre trop trop longtemps parce que j'aimerais bien que vous puissiez revenir et chanter avant la fin du culte parce que vraiment on aimerait profiter de vos belles voix. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un dimanche particulier parce que c'est le dimanche après Pâques. Alors c'est qu'une fois dans l'année, le dimanche après Pâques. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, tiens. Qu'est-ce qu'on prêche le dimanche après Pâques? Alors je me suis... j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, tiens... Pâques, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Donc, logiquement, s'il est ressuscité, ben aujourd'hui il est vivant. Ça, c'est la logique des choses, d'accord? C'est 1 plus 1. Et alors, je me suis dit, alors, s'il est vivant, qu'est-ce qu'il fait? Alors, le titre de mon message, c'est simplement celui-ci. 6 exploits que Jésus fait du ciel. Ben oui, c'est une question tout à fait logique. Et j'aimerais parler de ça brièvement, surtout du fait qu'on a ce groupe musicien de musique, de belle musique de Madagascar aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi dans un petit moment. Alors parlons un petit peu de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, si vous connaissez un peu votre Bible, vous savez que le plus grand et le plus simple résumé de la résurrection de Jésus-Christ se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, où Paul dit ceci au verset 3. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que c'est Christ qui est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Cephas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Donc en 2 versets, on apprend que Jésus est mort, qu'il était enseveli, on n'ensevit que les morts, qu'il est ressuscité, qu'il est apparu à plus de 500 personnes. Si on allait à Actes 1, versets 9 et 11, on apprend en plus que 40 jours plus tard, il est physiquement monté de la terre, donc après 40 jours de ressuscité, il est monté physiquement pendant que les apôtres le regardaient monter. Et ensuite, l'ange dit qu'il reviendra de la même manière qu'il est monté, donc physiquement. Et finalement, dans Éphésiens 1, 20, on apprend que Jésus, une fois arrivé au ciel, s'est assis à la droite du Père. Vous dites, tu crois ça? Ben, imaginons un instant que c'est vrai. Alors moi, je crois que c'est vrai, mais peut-être tout le monde n'est pas convaincu, d'accord? Imaginons que c'est vrai. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, Jésus est donc vivant, il est dans le ciel, il est assis à la droite du Père. Et donc, la question que moi, je me suis posée, c'est, tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? En fait, la Bible nous dit qu'il fait énormément de choses. Mais moi, j'aimerais en souligner que 6. 6 choses qu'il fait. Numéro 1, il sauve. Il sauve. Notre frère en a parlé tout à l'heure. Dans 2 Pierre 3, 9, il est dit ceci. Et c'est dans le contexte du retour. Il y a des gens qui se moquent, ils se disent, ouais, vous les chrétiens, vous dites que Jésus reviendra, mais il n'est pas encore revenu. Alors ils se moquent de lui et il dit ceci dans 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Et dans Jean 6, 40, Jésus dit ceci, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. » Alors ce qui est intéressant, c'est que Pierre a écrit ces paroles 33 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Donc 33 ans plus tard, il nous dit « Jésus peut te sauver ». Oh mais Thomas, il est mort. Ah oui, mais il est ressuscité, il est monté au ciel, il est à la droite du Père. Donc, ça veut dire qu'il est vivant. Et Pierre, 33 ans plus tard, dit, il peut te sauver aujourd'hui. Par sa mort et sa résurrection, Jésus, nous dit la Bible, a le pouvoir de nous pardonner nos péchés. Il ôte le péché du monde. Et il nous sauve du jugement. Pourquoi ? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous condamnés à mort, physiquement et spirituellement. Jésus peut balayer la condamnation de mort spirituelle en nous accordant la vie éternelle par son sang, sa mort et sa résurrection. Vous dites pas, mais John, tu crois vraiment que Jésus peut sauver quelqu'un aujourd'hui, 2000 ans après sa mort et sa résurrection ? Je vous donne un exemple. Moi, à 19 ans, j'étais un hippie. J'étais pas du tout intéressé au Dieu. J'ai pris un sac à dos, je suis parti de Genève et je suis allé en Inde pendant 6 mois. Je suis arrivé dans la rue en Inde, je fumais des tas de trucs que j'aurais pas dû fumer. Je m'éclatais. Et là, j'ai rencontré un chrétien dans la rue à New Delhi en 1976-76 qui m'a dit, John, le jugement de Dieu est sur toi. Mais Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. Il m'a cité un verset, Jean 3,16. Il m'a dit que si tu reçois Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, il va ôter ton péché et transformer ta vie. Je me suis dit, quoi ? Jésus peut vraiment faire ça ? Il a dit, essaye et tu verras. Dans la rue, ce jour-là, j'ai dit, Jésus-Christ, si tu peux rentrer dans ma vie et balayer mon péché, fais-le maintenant. Mesdames et messieurs, ça fait maintenant 33 ans que je suis pasteur. Il y a un truc qui s'est passé ce jour-là. Il y a un truc qui s'est passé. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Jésus est vivant. Jésus a envahi mon cœur. Il m'a sauvé. Il m'a pardonné de mon péché. Il m'a accordé la vie éternelle. Il a commencé à transformer ma vie. Et toute personne qui croit en Jésus-Christ a exactement la même histoire avec des circonstances différentes. Mais à un moment donné, tu as dit oui à Jésus-Christ. Il t'a sauvé. C'est la première chose qu'il fait. Il sauve. Deux. Deuxième chose que Jésus fait encore aujourd'hui, il habite. Il habite. Alors tenez-vous, c'est génial. Dans Galates 2:20, Paul écrit, attention, c'est 17 ans après la mort de Jésus. Galates 2:20, Paul écrit ceci. 17 ans après la mort de Jésus, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc Paul dit un truc complètement dingue, il dit, allez voir, je suis Paul, 17 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il dit, Jésus vit en moi. Qu'on peut dire ça de quelqu'un qui est mort, c'est pas possible, il fallait qu'il soit vivant Jésus pour pouvoir dire ça. Et ça, c'est le privilège du chrétien. Tout chrétien qui connaît Jésus-Christ peut affirmer sans équivoque, Jésus aujourd'hui vit en moi. Et vous savez ce qui se passe une fois que vous savez que Jésus vit en vous et qu'il vit en vous? Écoutez, c'est normal, imaginez. Jésus-Christ qui a le pouvoir sur la mort, qui a le pouvoir de te pardonner ton péché, rentre en toi et vis en toi. Qu'est-ce qui va se passer? Je te garantis que ta vie va commencer à changer. Ça, c'est une évidence. Comment? Ah ben, c'est simple. Galates 5, juste quelques chapitres plus tard, Paul le dit. Et ça, ça décrit ma vie avant de connaître Christ. Écoutez. Galates 5, 19. Les œuvres de la chair sont, voici une personne globalement qui ne connaît pas Christ, sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Écoute, voilà une personne qui vit sa vie pour lui ou pour elle. Mais, une fois que Christ vit en toi, qu'est-ce qui se passe? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Écoutez, il va complètement changer ta vie. Pourquoi? Parce que Christ vit en toi. Donc, si tu ne connais pas Christ, pose-toi la question. Est-ce que je veux que ma vie change comme ça? Si tu dis oui, invite Christ à rentrer en toi. Attention, ça va bouger dans ta vie. Ça va bouger dans ta vie. Donc, il sauve. Deuxièmement, il habite. Troisièmement, il secourt. il secourt, ou il nous secourt. Ah, ça c'est vraiment génial. Dans le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament, on est maintenant 35 ans après la mort de Jésus. 35 ans après la mort de Jésus, voici ce que l'auteur écrit. Ainsi, verset 14 du chapitre 4, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Écoutez bien. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ah oui, la Bible dit que Jésus est à la droite du Père, il est dans le lieu saint, si vous voulez, du ciel, et que là, il est prêt à nous secourir dans nos besoins. Est-ce que parfois vous vous sentez tenté, hein, vous luttez avec votre péché, avec le mal, et il y a des trucs qui vous donnent envie, et vous ne savez pas comment lutter avec ces choses. Ça vous arrive? Écoutez encore. Hébreux 2, 18. Car du fait qu'il a souffert lui-même, parlant de Jésus, et qu'il a été tenté, bien sûr, sans jamais pécher, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ah, c'est génial. Écoutez, puisque Jésus est vivant, puisqu'il sauve, puisqu'il habite en moi, puisqu'il me secourt dans mes besoins, il peut aussi m'aider à faire face à mes tentations. Quels sont tes besoins aujourd'hui? Problème de mariage? Problème de famille? Problème de santé? Problème de chômage? Problème de travail? Problème d'argent? Problème d'église? Tu sais, mes amis, on vit dans un monde déchu, quoi. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Quel privilège on a de savoir que Jésus me secourt dans mes besoins et même dans mes tentations. Il est là, il est là, il me secourt. Alors la question c'est, oui, est-ce que ça veut dire qu'il va tout de suite régler tous mes problèmes? Jésus est moi, tac, fini, terminé. Ah, c'est pas tout à fait comme ça. Parce que la Bible nous dit que nos problèmes nous aident à grandir dans notre foi. Alors écoutez, le psaume 23, vous le connaissez peut-être. Le psalmiste dit ceci, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ah ouais, là ce qu'on apprend, c'est que dans la vallée de la mort, quand la galère est là, ben, puisque Jésus vit en moi, il est en train de me dire, « Écoute, je suis avec toi. » Ça ne veut pas dire qu'il va régler le truc immédiatement, ou peut-être jamais du tout, ça c'est à lui de voir. Mais il est avec moi. Donc, il sauve, il habite, il secourt. Quatrièmement, il répond. Il répond. Alors ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. On est dans Actes 7, 59. C'est le martyr d'Étienne. On est 27 ans après la mort de Jésus. 27 ans après la mort de Jésus. Du moins, dans l'écriture du livre, Étienne, c'était beaucoup plus tôt, l'histoire même, et quelques peut-être années ou peut-être même quelques mois après le départ de Jésus. Mais alors Étienne dit ceci juste avant de mourir dans Actes 7 et le verset 59. Il était en train d'être lapidé, donc les gens étaient là en train de lui jeter des pierres. Il va mourir dans quelques instants. Et voici les dernières paroles qu'il dit en lapidant Étienne qui priait et disait. Donc il est là, les cailloux viennent vers lui, il est en train d'être martyrisé à cause de sa foi en Jésus-Christ. Donc il est là, il chope ses cailloux, le dernier truc qu'il dit c'est « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » À qui prie-t-il? À Jésus. Mais il est déjà mort. Oui, mais il est ressuscité, il est à la droite du Père, donc il est vivant. Donc Étienne prie à Jésus. Et dans Actes 9, quand Paul est sur la route de Damas et Jésus lui apparaît, au verset 6, on apprend tremblement et ainsi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Non, excuse-moi, verset 4. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Or, Jésus était déjà mort, mais il est ressuscité, il est vivant, et donc là, il parle à Paul, vivant. Oui, Jésus répond à nos prières. Alors, est-ce qu'il répond à oui chaque fois? Ah, non. Non, parce que la Bible nous dit qu'il répond de cinq manières. Il peut répondre oui. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où il répond oui. Parfois, il répond non. Paul a prié trois fois qu'une écharpe dans sa chair lui soit enlevée, mais la réponse était non. Souvent, c'est « attends, patiente ». Et parfois, ça, j'aime super. Dans Éphésiens 3, 20, parfois, il répond avec plus ce qu'on lui demande. « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Écoutez, Jésus peut faire ça parce qu'il est vivant. Il peut répondre au-delà de ce que tu lui demandes. Mais il faut lui demander. Et seuls ceux qui lui demandent croient qu'il est vivant et qu'il entend. Donc vous voyez, la résurrection, c'est la clé de tout, mes amis. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de Jésus qui est vivant et tout ce que je dis, c'est nul. Donc, il sauve, il habite, il secourt, il répond. Qu'est-ce qu'il fait encore? Je vous mets note là. Tac. Il prépare. Il prépare. Alors là, tenez-vous bien, mes amis. Il prépare quoi? Jean 14. Ah, ça tombe bien, je pensais à Féfé là. Féfé, t'es là? Féfé. Il va prêcher ce texte cet été, il faut revenir. Et il est maillage en plus. C'est incroyable, t'as vu ça? C'est incroyable. Écoutez, Jésus dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. D'ailleurs, Jésus dit un truc complètement dingue ici. Il est en train de dire, écoutez, il est encore vivant sur terre. Je vais mourir. Mais ensuite, je vais ressusciter. Je vais monter au ciel. Je vais être à la droite du Père. Je vais vous préparer une place là-haut. Et ensuite, je vais revenir vous chercher, vous prendre là-haut avec moi. Vous dites, non mais John, c'est complètement tout ton truc. C'est la plus belle histoire du monde. Amen. C'est la plus belle histoire du monde. Écoutez, pour un chrétien qui croit que Jésus est ressuscité, c'est pas exceptionnel, c'est logique. S'il est là-haut, et s'il dit qu'il va revenir, ben il va revenir. Et s'il vient nous chercher, et il dit qu'il vient nous chercher, ben il va venir nous chercher. Tu vois, mais ça fait longtemps qu'on attend. Et puis, moi je suis patient personnellement, j'ai 62 ans, j'ai encore quelques années devant moi, quoi. Et puis ce qui est super, la Bible dit que si je meurs en Christ, qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, je vais au ciel. Donc, ou bien il vient me chercher, c'est possible que cet après-midi il revienne, c'est pas impossible, il peut revenir à n'importe quel moment. Je suis prêt. Mais si je meurs avant qu'il revienne cet après-midi, je suis quand même prêt. Parce que je suis en Christ et il a pardonné mon péché. Donc c'est quand même génial d'imaginer, de penser qu'il prépare une place pour nous. Sixièmement, ça c'est vraiment super aussi. Ça, tout est super. Il demeure. Il demeure. Alors c'est exceptionnel. Il est là-haut, il va revenir, mais en attendant, Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 28, juste avant de partir, avant de partir, là, il est ressuscité, il dit ceci. Jésus s'étant approché, leur dit ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici les dernières paroles dans l'évangile de Matthieu. Jésus dit ceci, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors j'ai réfléchi à ça. Est-ce que le monde est déjà à sa fin? Non, puisqu'on est là. La Bible dit qu'un jour, Dieu va brûler le monde. Alors, on n'y est pas encore. Il fait un peu chaud des fois, mais le monde est encore là. Et Jésus dit quoi? Que jusqu'à la fin du monde, il est où? Avec nous, tant qu'il demeure avec nous. Alors, les implications sont incroyables. Dimanche dernier, on a vu dans Hébreux 13:5 qu'il ne nous quittera jamais. Alors ça veut dire qu'il est où maintenant? Mais il est ici. Il est avec nous. Alors j'aimerais rajouter un point, mais il n'est pas sur le PowerPoint. D'accord? J'y pensais en venant ce matin. Au moins un septième point. Alors, je ne l'ai pas mis aussi parce que c'est une supposition. Je pense que c'est vrai, mais la Bible ne le dit pas assez explicitement. Mais voici ma pensée. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Septième chose, il chante. Vous dites quoi? Il chante dans le ciel. Alors, je vais vous le montrer, d'accord? Dans Zophonie, c'est un livre dans l'Ancien Testament, chapitre 3, verset 17, d'accord? Il est dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Et il aura pour toi des transports d'allégresse. Donc la Bible nous parle ici que Dieu a des transports, où il aura pour toi des transports d'allégresse. Alors ce mot rina en hébreu peut être traduit comme il le traduit ici, ou bien aussi par chant. Par exemple, dans le psaume 126:2, d'accord, il est dit ceci. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse, le même mot. Donc ce mot utilisé pour Dieu dans Zophonie 3:17 peut être traduit chant. Donc ça veut dire que Dieu chante. Et Dieu est dans le ciel. Alors ce qui est marrant avec ça, maintenant imaginez que Dieu vraiment chante là-haut, d'accord, c'est ce que je pense. Ben, on sait que quand Jésus était sur terre juste avant sa crucifixion, dans Matthieu 26 et le verset 30, qu'est-ce qu'il a fait? Juste avant de commencer son chemin vers la croix, il est dit ceci au verset 30, après avoir chanté les cantiques, donc les disciples et Jésus, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc, Dieu chante, Jésus a chanté, et dans Apocalypse 5, on apprend que tous les résidents du ciel aujourd'hui chantent. Ma conclusion, mais la Bible ne le dit pas explicitement, c'est que si Dieu chante, et si la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, a chanté sur terre, et si tous les êtres célestes chantent, ma conclusion est qu'il est certainement probable que Jésus chante aussi dans le ciel. Ça veut dire qu'il aime le chant. Et ça veut dire qu'il aime les concerts chrétiens. Et il aime les chanteurs malgaches qui viennent chanter à la gloire de Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qu'on a appris? C'est qu'il est ici avec nous. Il est en nous. Il nous entend. Il nous écoute. Il nous répond. Et il chante. Et il aime lorsque nous le chantons aussi. Voici les sept, maintenant j'ai envie de dire, j'ai rajouté un exploit de Jésus qu'il fait du ciel. Il sauve, il habite, il secourt, il répond, il prépare, il demeure et il chante. Notre plus grand souhait ce matin, mesdames et messieurs, c'est que si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, qu'aujourd'hui, vous vous dites, waouh, je veux ça. Je veux que Jésus rentre en moi, qu'il soit avec moi, qu'il me sauve, qu'il me pardonne et que je puisse commencer à chanter comme on l'entend aujourd'hui. Si ce n'est pas ton cas, moi je te prie peut-être pendant le repas de venir parler avec quelqu'un. Dire, écoutez, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre cette relation personnelle que je peux avoir en Jésus-Christ ? Et ce sera une grande joie de vous guider. Donc je vais prier, puis ensuite, est-ce que vous pouvez revenir nous chanter un petit peu, d'accord ? Quelque chose, ce serait vraiment super, d'accord ? Oui, Seigneur, vraiment de tout cœur, nous te remercions. Merci pour cette œuvre qui est la tienne. Merci pour ce que j'ai appelé ces exploits, Seigneur. Le fait que tu sauves, que tu habites en nous, que tu nous secours dans nos besoins, que tu réponds à nos prières, que tu es là pour nous préparer une place dans le ciel, que tu demeures avec nous jusqu'à la fin du monde et que tu chantes, Seigneur. Oh, gloire à ton nom. Fais ton œuvre dans chacun de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Et réjouis-nous dans les chants que nous allons encore entendre maintenant. À toi toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ouais.